Les seigneurs des anneaux.
Et oui, bonjour, les seigneurs des anneaux sont de retour pour de nouveaux exploits. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang battent leur plein jusqu'au 25 février. Chaque jour, pendant ces joutes, on vous livre résultats, analyses et commentaires. Et aujourd'hui avec moi, Émilie Momentaler, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Comment ça va?
Ça va bien et vous?
Oui, en grande forme.
Olympique, oui.
Forme olympique? Eh bien, on vous écoute.
Et les amateurs de ski alpin commencent à s'impatienter. Le slalom d'âme a lui aussi dû être reporté un autre jour. Toujours la faute au vent violent qui s'est vu en Corée du Sud. Mais tout de suite, on s'intéresse à un champion d'exception, icône mondiale de son sport, qui a donné le tournis au public et à ses adversaires.
La petite histoire olympique.
Eh oui, Émilie, cette chronique est aujourd'hui consacrée à la star des stars du snowboard.
Oui, à Shaun White qui assoit un peu plus sa légende. Le snowboardeur américain a décroché un troisième titre olympique en halfpipe après Turin en 2006 et Vancouver en 2010. Au pied du podium il y a 4 ans à Sochi lors d'une compétition remportée par le Zurichois Yuri Podlachikov, Shaun White a pris une belle revanche à 31 ans au Phoenix Park de Bokwang.
Et celui qui domine la discipline depuis plus d'une décennie était très attendu, mis sous pression par le japonais Ayumu Hirano, en tête après 2 des 3 runs. La tomate volante, c'est son surnom, Émilie?
Oui.
Ça fait toujours plaisir. Bon, elle vole bien, celle-là. Hein, eh bien, cette tomate volante a parfaitement réagi sur son ultime passage, puisque le Californien l'a emporté avec 97,75 points, soit 2,5 points de plus que le Japonais, qui doit se contenter de l'argent, tout comme il y a 4 ans à Sochi. L'Australien Scotty James complète le podium, alors que le Vaudois Patrick Burgener a pris la 5e place.
La tomate volante, c'est dû à sa chevelure rousse.
Tout s'explique.
Il les a plus courts maintenant. Ouais. Parfait dans les transitions, d'une amplitude extrême dans ses sauts et toujours aussi créatif, Shaun White a renforcé son statut d'icône. Cette collection de 3 médailles d'or olympique est complétée par 8 sacres aux X Games. L'Américain s'est montré très ému et a même versé quelques larmes dans l'air d'arrivée.
Revenir au top après Sochi, retrouver l'amour et la passion du sport pour arriver à envoyer le jour J signifie beaucoup pour moi. Je me suis dit... Tu sais qui tu es, je me suis efforcé de rester calme, de faire ce que j'avais déjà fait toute ma vie.
Nous, on aime les larmes de joie.
Ah, bah oui, mieux que les autres.
Ces dauphins ont souligné à quel point la compétition avait été d'un niveau étourdissant et que la discipline avait encore énormément progressé ces dernières années.
Vous avez déjà pleuré de joie, vous?
Ça m'arrive.
Après une victoire en tennis, par exemple, on sait que vous êtes une grande tennis woman.
J'ai pas de victoire assez... mémorable pour ça. Mais...
Et alors Shaun White planche déjà sur son prochain coup d'éclat. L'Américain de 31 ans caresse le rêve d'être présent aux Jeux Olympiques d'été à Tokyo en 2020, lors desquels le skateboard fera son entrée au programme des JO.
À la maison suisse.
Et là, nous revenons ici sur l'actualité des athlètes suisses à Pyeongchang. Notre délégation olympique a déjà remporté une médaille, l'argent en curling double mixte, sur les 11 demandés par Suisse Olympique, Émilie.
Et l'équipe de Suisse féminine de hockey sur glace est toujours en lice pour défendre son bronze gagné il y a 4 ans. La jurassienne Sarah Forster et ses coéquipières ont bouclé le tour préliminaire par une 3e victoire en autant de matchs. Elles ont battu ce matin la Suède 2-1 et terminent en tête de leur groupe. Face aux Scandinaves, les Suisses ont profité de leurs opportunités en power play pour inscrire leurs 2 réussites. La Suisse connaîtra son adversaire en quart de finale jeudi soir. Il s'agira soit des Finlandaises, soit des athlètes olympiques de Russie.
Et on reste sur la glace, Émilie, où l'équipe de Suisse masculine de curling a, elle, été battue pour son entrée en lice dans le tournoi classique. Le skip Peter de Kruse et ses équipiers du CC Genève se sont inclinés 6-5 face à la Grande-Bretagne après un end supplémentaire. Et ils sont actuellement en train d'en découdre avec l'Italie pour tenter de corriger le tir. Ils perdent actuellement 2-1 à la fin du 4e end. On ne va pas se le cacher, Émilie, c'est compliqué.
C'est les Italiens qui ont la dernière pierre.
Hein. Eh oui, c'est compliqué, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Et du côté des dames, le CC Aro, on en parle, qui a aussi vécu des débuts difficiles, puisque les Suisses ont abandonné après le 8e end lors de leur duel face à la Chine, qui menait alors 7-2.
Et les skieuses, elles rongent leurs freins. Le slalom féminin des Jeux Olympiques de Pyeongchang a été annulé cette nuit en raison de vents violents. Alors que les températures sont remontées en Corée du Sud, le vent, lui, ne s'en est pas allé. Repoussé d'1h30, la course n'a finalement pas pu avoir lieu alors que les bourrasques se sont intensifiées. L'épreuve se disputera donc ce vendredi. Il s'agit de la 3e course de ski alpin à être repoussée de la sorte. Pour l'instant, seul le combiné homme a pu se dérouler et cela sur une piste très raccourcie. Les dames vont devant d'un programme démentiel avec 3 courses en 3 jours avec le slalom géant, le slalom et le super G. Selon Luc Alphand, ancien champion de descente français et actuel consultant, ces annulations vont avoir leur importance.
C'est les annulations qui commencent à peser parce que ce matin, quand on annule très tôt, le matin à 8h, tu restes à l'hôtel, tu grilles pas un tout petit peu de jus. Là, elles sont montées, elles ont fait un début de reconnaissance, elles sont restées dehors, tu as laissé déjà un tout petit peu d'influx, quoi. Et après, c'est chiant. Hein. C'est chiant quand tu es athlète parce que tu te prépares pour le jour J, puis c'est pas le jour J, puis ça déplace. Et puis ça va être très compliqué si on n'arrive pas demain et après-demain à faire les épreuves de vitesse homme. Parce que là, il y a aussi le switch des pistes. Est-ce qu'on va se retrouver un jour la semaine prochaine à faire descente femme le matin, descente homme l'après-midi? J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Déjà, de faire deux sites, c'est compliqué. Et déjà, deux courses, voilà. Donc à partir de vendredi, ça va être très critique. Et là, ça commence à être complexe.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial en Corée du Sud, Yann Esler. Le slalom géant dames aura donc lieu la nuit prochaine, tout comme la descente messieurs. Le slalom féminin se tiendra, lui, dans la nuit de vendredi à 2h du matin.
Émilie Suisky a réservé quelques surprises au niveau de ses sélections pour les épreuves techniques et le Super G de ses joutes sud-coréennes. Carlo Yonka est laissé sur la touche. C'est Lucas Erni qui lui a été préféré en géant. Il accompagnera ainsi Loïc Meillard, Gino Caviezel et Justin Murizier dans le portillon de départ. Et le Grison ne prendra pas non plus part au Super G, puisque c'est Gilles Roulin qui représentera la Suisse aux côtés de Beat Feutz, Mauro Caviezel et Thomas Tümmler. En revanche, pas de surprise pour le slalom avec les quatre spécialistes du virage court que sont Daniel Yul, Luca Erni, Ramon Zenhuizen et Loïc Meillard.
Et nous, on reprend notre souffle le temps d'une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de ces Seigneurs des Anneaux. Nous parlerons notamment des pom-pom girls un peu particulières. A tout de suite.
Les Seigneurs des Anneaux. Les Seigneurs des Anneaux.
De retour pour la deuxième partie des Seigneurs des Anneaux, on s'en va directement du côté de la Corée du Sud.
Allô, Pyeongchang.
Et nous allons à présent prendre le pouls directement sur place à Pyeongchang. Nous pouvons compter sur deux envoyés spéciaux qui suivent au plus près ces Jeux Olympiques pour nous. C'est Yann Esler qui est avec nous aujourd'hui par téléphone depuis la Corée du Sud. Alors, bonsoir Yann, puisqu'il faut dire bonsoir, hein, comment ça va ?
Mais très bien, et vous ?
Ouais, ben oui, je vous remercie, très bien.
Nous allons évoquer avec vous les pom-pom girls nord-coréennes présentes à Pyeongchang. Elles sont apparemment l'une des curiosités de ces jeux. Vous nous confirmez l'intérêt qu'elles suscitent sur place ?
Alors oui, c'est un intérêt énorme, tant du côté des Coréens, donc des Sud-Coréens, que des médias occidentaux. C'est vraiment, on va dire, pour l'instant, un de ces highlights de ces jeux, parce que pour certaines compétitions, elles sont venues, alors que les compétitions ont été annulées, on pense notamment aujourd'hui au slalom féminin, il y avait une de ces, comme on les appelle, armées de beauté qui est venue, qui a mis l'ambiance dans le public, parce qu'elles ne font pas que faire, on va pas dire faire l'hypothèse, mais elles ne sont pas seulement là dans le public pour faire joli, mais elles mettent une certaine ambiance. On a parlé de l'ambiance ici à Pyeongchang, qui est des fois pas forcément extrêmement enlevée, parce que le monde n'est pas tout le monde ne s'est pas forcément déplacé ici en Corée du Sud. Par contre, ces cheerleaders nord-coréennes font vraiment beaucoup de bruit et elles sont suivies par le public.
Et vous, Yann, vous vous sentez bien au milieu de cette armée de beauté?
Je dois dire que je ne me sens pas forcément extrêmement bien, tout en sachant qu'il y a des molosses qui sont à chaque extrémité, en fait, comme vous avez des armées de beauté, pour pouvoir les contrôler. Donc on se dit quand même qu'il y a quelque chose de bizarre.
Eh ben, alors justement, Yann, c'est quoi les caractéristiques de ces pom-pom girls?
Alors, les pom-pom girls sont toujours habillées soit en rouge, soit en blanc. Elles sont extrêmement millimétrées, comme on a pu le voir aussi sur certains défilés nord-coréens. Il n'y a rien vraiment de très différent. Il y a toujours une de ces pop-pom girls qui conduit le groupe, en fait, et qui lance des chants, comme on pourrait l'avoir dans un stade ou une patinoire, simplement qu'elle fait. C'est toujours avec des gestes, des mouvements, des chansons qui sont au millimètre près. C'est vraiment, elles vont d'un côté de l'autre. En même temps, il y a vraiment aucun battement. Je pense que du côté de la Suisse, vous avez pu le voir sur les télévisions. C'est presque un peu surréaliste par certains aspects.
Justement, cette armée de beauté, elle suscite aussi un certain malaise sur place.
Alors, Un malaise, oui et non, parce que du côté des Coréens du Sud, alors, ils sont très, très, très friands. Ils sont très contents. On les voit sourire, on les voit essayer de s'approcher de cette armée de beauté, les suivre dès qu'elles lancent un chant, tout le monde part avec elles. Par contre, c'est plus du côté des Occidentaux, des Européens ou des Nord-Américains, où il y a chaque fois cette interrogation de se dire. Mais c'est complètement, ça paraît irréel. On a l'impression d'être revenu 60 ou 70 ans dans le temps, en fait, avec quelque chose du passé, tout simplement. Ça semble surréaliste, comme je disais avant.
Et Yann, encore un petit mot, alors rien à voir avec l'armée de beauté, hein, mais encore un petit mot concernant l'annulation du slalom dames aujourd'hui, une nouvelle fois à cause du vent. Est-ce qu'une forme d'agacement commence à s'installer du côté des acteurs du ski alpin ?
Alors, il y a une forme d'agacement, mais c'est un agacement lié surtout, en fait, à la pression. C'est pas forcément le fait qu'il y ait du vent et que ça soit annulé, mais c'est plus la pression que ça génère, parce que on a l'impression que l'épreuve peut avoir lieu, mais finalement, le vent se lève avec des grosses bourrasques, c'est repoussé, le vent redescend, on se dit que ça va avoir lieu, et le vent reprend. Et c'est tout ça, en fait, que m'expliquait, par exemple, Luc Alphand, ce matin, que j'ai rencontré, le consultant de France Télévisions, un ancien descendeur français. Il disait que ça influe beaucoup, énormément, sur les athlètes qui, eux, doivent, bien sûr, monter tout en haut, attendre, comme on dit par chez nous, des fois, se les peler, avoir très froid. C'est vrai qu'il fait assez froid en haut des pistes, à cause du vent, et ne pas savoir, en fait, s'ils vont pouvoir descendre ou pas. Donc, se lever le matin en se disant, bah tiens, je vais faire ma descente olympique, mon club olympique, et puis se retrouver une heure plus tard, bon, c'est repoussé de 15 minutes, c'est repoussé de 30 minutes, c'est repoussé à deux jours plus tard, c'est pas forcément ce qui est plus agréable.
Merci beaucoup, Yann. On rappelle que vous êtes l'un de nos correspondants pour ces Olympiades en Corée du Sud. Bonne nuit.
Merci beaucoup. Et bonne journée à vous.
Bonne nuit Yann. Émilie, à propos du froid, nous on a encore tous en tête l'image terrible de Simon Hamann qui doit attendre par moins 18 degrés 10 minutes en le tremplin.
C'est assez frappant, oui.
Le tableau des médailles.
On se penche à présent sur les principaux résultats de ce cinquième jour de compétition à Pyeongchang.
On vous en a déjà parlé, l'Américain Shaun White a décroché un troisième titre olympique en halfpipe. Le Japonais Ayumu Hirano et l'Australien Scotty James complètent le podium. Le Vaudois Pat Burgener a lui pris la cinquième place, tandis que le Singalois Yann Scherrer s'est classé neuvième.
Le combiné nordique a souri à Eric Frenzel ce matin à Pyeongchang. L'Allemand a conservé son titre, acquis il y a 4 ans à Sochi, devant le Japonais Akito Watabe. Et le bronze, lui, est revenu à l'Autrichien Lucas Klapfer. 26e après le saut, le Soleroy Tim Hug s'est classé au 27e rang.
Et le Grand Chelem orange, les Néerlandais ont décroché les 5 médailles d'or mises en jeu en patinage de vitesse jusqu'à présent. Jorin Termors a remporté le 1000 mètres aujourd'hui. Elle a devancé les Japonaises Nao Kodera et Mio Takagi. Et d'autres résultats seront à retrouver dans notre journal à 18h.
La suite de la glisse.
Et c'est déjà l'heure, Émilie, de s'intéresser à ce qui se passera au pays du matin. Calme cet après-midi et demain. Et le menu est copieux, enfin, si Éol le permet.
Oui, en ce qui concerne le ski alpin, la première manche du géant dame est programmée à 2h du matin, heure suisse, tandis que la seconde débutera à 5h45. Les hommes disputeront eux la descente dès 3h30.
Et place à un moment de grâce avec le programme libre des couples en patinage artistique à 2h30.
En snowboard, Calais, Coblet et Jérôme Liman tenteront de décrocher leur qualification pour la finale du Border Cross à partir de 3h.
Et les curlers suisses seront aussi de sortie. On en parle dans un instant pour voir où ils en sont face à l'Italie, puisque les hommes du CC Genève défieront le Danemark à 6h05, précise, alors que les dames du CC Arrow seront, elles, opposées aux États-Unis à 12h05.
Et entre les deux, on chaussera nos spatules. Nathalie von Siebenthal disputera le 10 km skating en ski de fond, départ à 7h30. Reportée aujourd'hui à cause du vent, l'épreuve individuelle dames du biathlon sur 15 km se tiendra, elle, demain à 6h15. Et Benjamin Weger et Séraphine Wisner courront, eux, le 20 km de ce biathlon à 12h.
Et à 13h10, c'est l'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace qui fera son entrée dans le tournoi olympique. Les hommes de Patrick Fischer affronteront le Canada pour le premier match du tour préliminaire.
Et on arrive déjà à la fin de cette émission des Seigneurs des Anneaux. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet. Et on fait vite un petit pointage du côté des curlers suisses qui sont toujours menés 3-1, mais qui cette fois auront la dernière pierre à la fin du end 5.
C'est compliqué contre l'Italie. C'est compliqué, ça ne va pas être facile, mais bon, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Émilie, on se retrouve demain pour de nouveaux exploits. Ce sera toujours à 13h05 sur notre antenne. Bel après-midi à tous. Bel après-midi, Émilie.
Bel après-midi.
À demain.
Les Seigneurs des Anneaux.